Vous écoutez France Culture.
La grande table d'été, Olivia Jesbert, c'est à vous.
Merci beaucoup, Antoine Mercier. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h. Hein. Merci bien, la grande table, à table. Venez, entrez, ne soyez pas timide, asseyez-vous, prenez place, écoutez-les. Autour de 13h20, à première vue, un choc visuel, un déclic. Aude Lavigne a interrogé 40 acteurs majeurs de l'art contemporain, artistes, mais aussi galéristes, mécènes, commissaires d'exposition et critiques d'art. Ce midi, Olivier Képlin, le directeur de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. À l'admi, un live inédit, programmé par Mathieu Conquet. Rivière Noire, c'est le nom, le titre d'un projet collectif entre Brésil, France et Mali. À 13h45, soit 2h moins quart. Le journal d'Avignon, où France Culture prend chaque été, vous le savez, ses quartiers d'été. Joël Gaillot reviendra sur les temps forts des dernières 24 heures avant de nous présenter ce midi le lead ballet de Thomas Lebrun, Danse, genre, amour et sexualité, un chorégraphe emblématique de sa génération. La grande table, l'été, c'est enfin des personnalités qui font vivre la culture d'aujourd'hui et la réinventent au jour le jour, au cœur des préoccupations et des enjeux artistiques du moment. Ce midi, le dessinateur Charles Berbé et l'écrivain François Bégodeau pour leur football attitude et le BD cinéaste Pascal Rabaté. Suivez le fil du crayon, du goudron, des crampons et des plumes. On en parle avec les pieds ou avec les mains. Bonjour, bienvenue à tous, c'est la grande table d'été. Lui est écrivain et comédien, ancien prof, punk dans l'oreille, footballeur du dimanche. Il aime jouer juste, avancer dans la diagonale et vient de signer son deuxième scénario de bande dessinée, paru sous un titre qui lui convient qu'à moitié. Et pourtant, Petite Frappe convient bien à son ado anti-héros qui frappe fort dans les stades mais n'emmène pas large dans la vie. Entre les murs du studio 1 de France Culture, François Bégodeau est de retour. Bonjour.
Bonjour.
Lui encore a longtemps partagé son lit avec son acolyte Philippe Dupuis, avec qui ce dessinateur d'origine irakienne a composé plus d'une vingtaine d'albums de bandes dessinées. Un nid, pourquoi faire ? Après les concerts dessinés avec Rodolphe Burger, il organise aujourd'hui des lectures de bandes dessinées déclamées à la Maison de la Poésie. Mais ce midi, c'est pour Tatane que Charles Berbérian est notre invité. Un manifeste pour un football joyeux et durable, un petit traité de football dessiné à huit mains avec Pénélope Bagieux, Bouzard et Jules qui vient de paraître chez Gallimard. Bonjour à vous Charles Berbérian.
Bonjour.
Charles Berbérian, Tatane, c'est un projet qui est né en 2011 du cerveau passablement déjanté de l'ancien footballeur professionnel Vikash Dorasso, déjà parrain du Paris Foot Gay en lutte contre l'homophobie dans les stades. C'est un manifeste qui entend sensibiliser les professionnels du football et le grand public sur les plaisirs du jeu et le lien social qui devrait en découler. L'idée, est-ce qu'elle est, d'après vous, en train de faire son chemin, petit à petit ?
D'après ce que me dit Vikash, oui. Et j'espère bien que oui. Comme je disais à François Bégodeau juste avant le début de l'émission, c'est vrai que je
m'amuse. Il ne faut jamais se parler entre vous avant le début de l'émission.
C'était impossible,
non,
on se connaît.
Sinon, les auditeurs, ils ne sauront jamais. Alors, répétez tout.
Mais en même temps, je vais vous dire ce qu'on s'est dit. C'est pas mal, non ?
Dites-nous.
Alors, il m'avait dit, mais t'aimes pas trop le football, toi ? J'ai dit,
bah, qu'est-ce que vous avez répondu ?
J'aime pas. J'arrive pas à m'y intéresser, c'est vrai.
Et là, qu'est-ce qu'il a ajouté ?
Dit, bah alors, qu'est-ce que tu fous dans cette émission ? Enfin, je lui ai demandé de partir, en fait.
Et là, qu'est-ce que vous avez répondu ?
Non, il m'a pas dit ça de manière aussi péremptoire. Non, j'ai dit que j'avais beaucoup aimé le film que Fred Poulet avait réalisé sur Vikash, Substitute. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce que faisait Vikash avec l'association Tatane. Et quand il m'a proposé de participer à ce livre qui réinvente des règles ou qui invente des règles totalement absurdes, très drôles, pour apprendre à s'amuser à nouveau avec le football, avec ce jeu-là, loin de toutes les contingences que moi, en tout cas, je peux lui reprocher aujourd'hui, que ce soit économique, politique, éthique, peu importe, ça devient trop compliqué pour moi. Ça l'était déjà avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça se simplifie quand... je vois, et quand j'écoute Vikash me parler de football.
Alors j'ai une question beaucoup plus cérébrale que celle de François Bégodeau. Est-ce qu'on est obligé de bien comprendre le football et de s'y intéresser pour bien le dessiner? Je pense à un de vos confrères, Bouzard, qui dit que c'est pas si facile de parler, et notamment en dessin, de foot, de parler de foot en BD. Oui. Il a dessiné une partie des dessins de cet ouvrage, de ce Tatane, avec Pénélope Bagieux, avec Jules et donc avec vous, Charles Berberian. Vous avez illustré ces règles d'or du manifeste Tatane. Ça donne donc un livre illustré qui est paru chez Gallimard. Vous êtes, Bouzard est dessinateur d'autres ouvrages sur le foot, hein, football et du foot expliqué aux filles, à ma mère et à Didier Deschamps. Et Bouzard, il dit aux Parisiens récemment que c'est un sport de résultats, le foot, de l'instant et du direct, très difficile à dessiner de surcroît. Du coup, on en parle de façon réaliste et c'est souvent raté. Vous avez quand même choisi des dessins assez réalistes.
Moi, je alors c'est assez paradoxal, mais j'aime beaucoup le supplément week-end de l'équipe, hein, et notamment pour les photos qu'il y a au début. Et à chaque fois, je suis scotché par l'aspect chorégraphique, hein, des mouvements arrêtés comme ça, que ce soit des footballeurs, des basketteurs. J'adore ça, quoi. Et donc, quand on m'a proposé de participer à ce projet collectif, j'ai tout de suite pensé à ces photos que j'aime beaucoup. Et j'ai essayé de faire pareil en dessin. Donc, l'option plus réaliste... en tout cas dans la manière de dessiner les footballeurs, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être le plus près possible des proportions et des... ça, pour moi, ça convenait un peu à ce que l'idée que je me faisais de ces photos, voilà. Et je me pose jamais trop de questions sur la manière dont je vais dessiner avant de dessiner et pas pendant et finalement pas non plus après, alors...
Comment le montrer, comment en parler autrement du football? C'est la question que s'est posée aussi l'artiste-performeur Massimo Furlan. Dans une performance, il incarne Michel Platini dans le match France-Allemagne des quarts de finale de la Coupe du Monde en 1982. Pour apprendre les gestes de cette star du foot, il a regardé 150 fois le match. Visuellement, le foot performé, ça donne quoi? C'est donc la question que lui a posée Adrien Nazilli.
Vous voyez un gars qui essaye, qui court dans tous les sens, qui se démène pour être au plus proche du véritable héros de l'époque, Michel Platini, qui à l'époque, je ne sais plus, avait 24 ans. Alors évidemment, il y a quelque chose de ça, mais ce n'est pas du tout nostalgique. D'une part, ça parle du jeu du football, c'est-à-dire d'une manière, autre manière d'approcher cette question du jeu et de notre relation à ce jeu-là. Mais c'est bien sûr un lien à la question de la mémoire, évidemment. De moi seul, jouant, pratiquant. Moi, j'ai jamais pratiqué le football dans une véritable équipe officielle. J'ai pratiqué toujours seul, dans ma chambre. Et c'est en fait grâce à l'imaginaire, au fond. Moi, l'imaginaire me permettait de devenir champion du monde une dizaine de fois en une soirée. Le monde du football, c'est un monde en soi, c'est un phénomène populaire. C'est ce qui m'intéresse aussi, c'est ce phénomène populaire. Tout le monde connaît le foot, même ceux qui le détestent savent ce qu'est le foot. Après, au niveau de la performance, j'irai pas dire que les joueurs sont des performeurs. Peut-être Suarez, l'attaquant uruguayen, a quelque chose d'un performeur lorsqu'il arrache la moitié d'une épaule du défenseur italien en essayant de le manger. Là, on sort alors du football, on sort de cette logique sportive et on est alors dans quelque chose d'autre, ce qui est d'ailleurs assez fascinant que ça puisse arriver. Que ça soit apparu comme ça, c'est, je trouve, quelque chose d'assez incroyable, alors qu'on a un événement très normé, justement. On a peut-être des performances plus sur les coupes de cheveux des joueurs, des mises en plis qu'en termes artistiques, je dirais.
François Bégodeau, le foot, c'est pas comme si on n'en parlait pas en ce moment. Il me semble qu'il y a une Coupe du Monde quelque part.
Je suis pas au courant, mais oui.
Non, vous non plus. Bon, on a perdu de toute façon. Mais est-ce qu'on en parle bien, d'après vous? Est-ce qu'on en parle mieux qu'il y a 3 ans, par exemple, avant que Tatane, ce projet, n'existe et commence à circuler un peu?
Oui, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. Enfin, en tout cas, moi qui suis assez vieux maintenant pour pouvoir comparer ce qui est comparable, plusieurs Coupes du Monde et l'évolution du commentaire de football. Le commentaire s'est beaucoup déployé d'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'émissions maintenant qui font des talk shows non-stop où ça discute de foot comme ça pendant 4 heures, bon, sur d'autres radios, sur des chaînes de télé. Et je trouve que la culture tactique générale s'est vachement développée. C'est-à-dire que là-dessus, je trouve que c'est de plus en plus subtil, je dirais, dans l'analyse des matchs. Alors après, il reste quand même le foncier, je dirais, un peu beauf du commentaire de sport, hein, qui est là, qui est une espèce d'invariant avec lequel il faut composer, c'est comme ça. Et sur la Coupe du Monde, par exemple, on alterne entre des analyses très pointues de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tel ou tel jeu de telle équipe, et puis des invariants légendaires tout à fait pénibles, du genre quand il y a France-Allemagne en quart de finale, plutôt que de se demander quelle est cette équipe d'Allemagne et comment elle joue maintenant, on va faire monter une dramaturgie sur la vengeance de Séville 82. Ce à quoi Didier Deschamps a très bien répondu, qui est un pragmatique, il a répondu « mais les joueurs n'étaient pas nés ». Comment voulez-vous susciter chez eux un esprit de vengeance? Puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vengeance? Donc on est, avec le foot, moi je suis un fan de foot contrarié, quoi. C'est-à-dire qu'on passe en permanence d'un sentiment d'empathie, de vraie admiration et d'émotion devant la production de gestes qu'est ce sport. Et aussi sa partie, sa face très très bête, quoi, très indécrottablement beauf.
Et culturellement et artistiquement, parce qu'avec Jouer Juste, il y a déjà 10 ans, vous étiez déjà dans le détournement. Vous dites qu'aujourd'hui, la majorité quand même des productions culturelles, artistiques autour du football, et Dieu sait qu'il y en a, surtout en période de mondial, le foot restant un bon produit d'appel, ça engage ou ça découle souvent sur des productions culturelles assez médiocres.
Oui. Alors, j'ai un petit peu réfléchi sur ce truc, parce qu'on m'a demandé d'y réfléchir, là, je pense que vous parlez d'une interview. En soi, je suis pas sûr d'avoir une idée très très précise sur la question, parce qu'il faudrait vraiment que je lise toutes les publications, et il y en a pléthore, quoi. Donc, cela dit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on tient un produit d'appel aussi fort que le foot, d'une certaine manière, la qualité est presque superflue, parce qu'on sait très bien que ça se vendra. C'est très vrai, par exemple, de livres écrits par des footballeurs, ou écrits par des nègres, enfin, peu importe d'ailleurs comment ils ont été écrits. C'est souvent, j'en ai lu quelques-uns, ils sont quand même systématiquement médiocres, vraiment. Bon, stylistiquement évidemment, mais c'est pas le but. Mais même sur le contenu, c'est pas très intéressant. Parce qu'on se dit, bon, bah, finalement, un livre signé, machin, qui a gagné la Coupe du Monde en 98, ça suffit, c'est gagné d'avance, quoi.
N'empêche que vous publiez Petite Frappe, une bande dessinée scénarisée. Et François Bégoteau, ce qui est intéressant, c'est que cette bande dessinée, signée pour le dessin Grégory Mardon, qui se nomme Petite Frappe, mais vous auriez aimé l'appeler autrement, si le monde était peut-être un peu moins bête et si les éditeurs étaient moins sensés, vous invitant à choisir un titre français qui, si possible, connaîtrait le faux sujet footballistique de cette bande dessinée. Sinon, elle se serait appelée comme ça. Beaton the brat, Beaton the brat, Beaton the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh. Oh yeah, oh yeah, oh. Elle se serait appelée Beat on the Brat. C'est ça, Brat?
Beat on the Brat.
Ça veut dire battre le gosse?
Ouais,
excusez-moi, j'ai fait.
Frappe le garnement ou frappe le petit con.
C'est bien ça.
Ouais. Cela dit, là, j'ai été injuste dans ces propos sur l'éditeur parce qu'en l'occurrence, effectivement, il y avait un appel de leur part à trouver, et c'est souvent le cas pour les publications autour du foot, un jeu de mots avec le lexique attitré du foot, donc coup franc, faute dans la surface, etc. Et là, je disais non, on va pas faire ça, c'est chiant, on pourrait peut-être trouver autre chose de plus original. Et de fait, c'est quand même une idée de l'éditeur Petite Frappe, et j'ai trouvé ça super.
Vraiment,
là, je lui ai dit, alors là, ok, là, je signe, ça, parce que ça correspondait bien au personnage, et puis de fait, ça joue sur le jeu de mots. C'est vrai qu'idéalement, je rêvais d'une BD qui s'appellerait Beat on the Brat, ou Brat tout court, mais j'ai quand même accédé à l'argument selon lequel c'était quand même un peu codé, quoi. Et je regrette pas.
Hommage donc au Ramones sur France Culture, ouais, François ouais. Bégodeau. Alors pourquoi ce titre, finalement, Petite Frappe, lui convient si bien? Vous nous en parlez de votre Jonathan, votre personnage?
En fait, c'est beaucoup parti d'un sentiment que j'ai, notamment devant certains films. J'en ai un peu marre des personnages sympathiques, quoi.
Enfin, je veux dire, ah, il n'est vraiment pas sympathique, hein, je vous le confirme.
Ouais,
en même temps, il est jeune.
Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la justesse.
Ce qui pardonne un peu.
Je vois bien que dans le cinéma français, notamment, on essaie toujours de rendre sympathiques tous les héros, etc. Alors, les scénaristes travaillent beaucoup à ça, pour au bout du compte, qu'ils soient touchants et sympathiques. Moi, j'aime bien les personnages qui me résistent. J'aime bien les personnages qui sont troubles. Piala était très, très fort pour ça, par exemple, dans son premier film, L'Enfance Nue. Bah, d'une scène à l'autre, on ne savait pas s'il fallait aimer ce garçon, pour ceux qui l'ont vu, c'était un enfant ou pas. Là, j'ai essayé de construire un personnage qui serait comme ça, à géométrie variable aussi, quoi. Il fait des choses qui sont sympathiques. Par exemple, se dénoncer alors qu'il vient de mettre un but de la main, c'est très tatanien comme attitude. Et c'est très rare. Et ça témoigne chez lui d'une grande moralité, quoi. Enfin, en tout cas, d'une aspiration à la vertu dans un monde qui ne l'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'inversement, il peut être assez énervant, il peut être assez incontrôlable.
Parce qu'il répond à tout le monde, il insulte, il fait des petites blagues pas sympathiques à ses coéquipiers ou à ses adversaires.
Tout à fait.
Il est provoquant, méprisant.
Voilà, il est pénible. Il est
désagréable
pénible.
Avec les filles aussi.
Et ça, c'est pareil, je veux dire, avec les filles, quand même, au bout du compte, là, la BD raconte l'histoire d'un mec qui va quitter un monde de garçons pour aller vers un monde de filles. Hein. C'est-à-dire le rock, en l'occurrence, qui est incarné par sa sœur. Donc, au contraire, je pense qu'il est assez attiré par le féminin. Et plutôt exaspéré par
l'esprit de vestiaire.
Le virilisme beauf des vestiaires, le paternalisme de son entraîneur. Donc, par ailleurs, c'est aussi, alors c'est un détail dans la BD, mais j'essaie de le défendre un peu parce qu'on met souvent en avant son côté petit con. À un moment, il y a des garçons qui emmerdent l'équipe féminine du club et c'est quand même lui qui va rendre la balle aux filles. Bon, c'est des petites choses comme ça. Ça n'en fait pas un vertueux, mais ça en fait quelqu'un de complexe, quoi. C'est ça que je voulais essayer de travailler.
Et il a aussi ses cauchemars nocturnes, il a cette relation assez belle avec sa mère, il a des moments où effectivement il est assez touchant et on sent que c'est quand même un personnage, ce Jonathan, John pour les intimes, qui se cherche une place mais qui retire sa main finalement à chaque fois aussi qu'une main lui est tendue.
Parce que c'est une main qui ne lui convient pas. En fait, il est. Effectivement, moi j'aime bien les personnages qui se sabotent un peu. C'est assez beau le renoncement, et notamment le renoncement à une puissance. C'est-à-dire, John a une puissance, c'est un très bon joueur de foot, qui pourrait aspirer à une carrière professionnelle. D'ailleurs, il est recruté à la fin de l'album. Et je trouve assez beau. Moi j'aime bien les sportifs qui arrêtent. Je trouve que c'est toujours très très beau quelqu'un qui arrête sa carrière en cours de route et qui dit non, j'en ai marre de cette vie de con.
Oui, mais il se sabote en même temps parce qu'il n'a pas grand chose d'autre sur lequel se reposer.
Alors ça viendra. C'est-à-dire qu'il renonce à cette puissance pour laisser la place à une autre puissance, et ça pourrait être du côté du rock, ça pourrait être du côté du féminin, ça pourrait être du côté de la musique. C'est des choses qui sont un petit peu abordées dans le livre. On sent qu'il commence à mettre un orteil dans ce. Il demande à sa sœur un poster d'Iggy Pop, il demande à sa sœur de lui expliquer la guitare. On sent, alors ça serait le volet 2 qui n'aura pas lieu, je crois pas, mais.
C'était la question que j'allais vous poser, vous en doutez. Non, saison 2 pour l'été prochain.
Mais c'est vrai, il y a des sportifs comme ça, extrêmement rares, qui à un moment se sont dit, il y en a marre. Il y en a marre de passer 12 heures par jour à m'entraîner. Et d'ailleurs, souvent, un des problèmes des sportifs professionnels, c'est que, c'est une des raisons pour lesquelles ils pètent les plombs, certains à 25 ans, c'est qu'ils n'ont pas eu de jeunesse, ils n'ont pas eu d'adolescence, quoi. C'est-à-dire qu'à 15 ans, ils avaient déjà une hygiène de vie irréprochable. Donc, ils n'allaient pas en boîte de nuit, ils ne fréquentaient pas autant de filles qu'ils voulaient, ce genre de choses. Ils n'ont peut-être pas fait les excès réglementaires de cet âge-là. Et ça revient un petit peu brutalement un peu plus tard. On en connaît, qu'on pétait les plombs comme ça. Donc, faut quand même pas. Moi qui suis un fan de sport en termes de spectacle, de mise en scène, de gestuelle, je trouve que quand même ça induit des vies qui sont quand même pas très désirables, quoi. Et John ne désire pas cette vie.
Voilà pourquoi le football n'est pas le vrai sujet de cette bande dessinée. Clin d'œil numéro 2 à votre éditeur. Deux des quatre objectifs que s'est fixé le collectif Tatane, que vous soutenez d'ailleurs, hein, François Bégodeau, et que vous dessinez, Charles Berberian, se retrouve en toile de fond de petites frappes. La démocratisation nécessaire et radicale de la vie des clubs et des associations sportives et la fin souhaitée du marché spéculatif dans le football, parce que le personnage de François Bégodeau évolue dans une équipe local, oui. On dit comme ça. Et il est convoité, effectivement très convoité par des recruteurs qui sont prêts à certains coups bas, là encore, eux qui parlent de vraies valeurs pour le recruter et le faire monter. Si le sport est beau, est-ce que le milieu de foot reste quand même gangréné, selon vous deux, Charles Berberian, par ses contre-valeurs?
Alors, je vais vous répondre très simplement, je ne sais pas. Mais ce que disait François m'évoquait pour moi le parcours de certains musiciens. notamment dans les années 70, quand la musique était devenue d'abord un enjeu financier, notamment évidemment pour les labels qui les signaient, les compagnies, les majeures compagnies qui les signaient. Et eux aussi, certains n'ont pas eu de jeunesse. Ils ont commencé à jouer dans un groupe à 16-17 ans pour se retrouver sur le toit du monde, à gagner des millions et des millions de dollars un an plus tard. Et quand je lis des interviews de ces gens-là, c'est des gens qui sont complètement cramés, quoi, qui sont passés à côté de leur jeunesse. Et qui, alors c'est marrant parce qu'il se passe une chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que certains découvrent le sport après, comme vraie passion. D'autres deviennent pilotes d'avion, par exemple, je crois que c'est le chanteur d'Iron Maiden. Mais il y a des sportifs qui deviennent musiciens, parfois à notre grand regret.
Oh, il y a des tennismans qui deviennent chanteurs, et c'est génial. Enfin, tu as tous les 10 de Yannick Noah, je crois, tu me le disais.
Nicolas Dunger, qui était footballeur, qui est un Suédois, qui a fait des disques que j'aime bien. Mais sinon, John McEnroe, je pense, j'ai jamais écouté. À mon avis, c'est assez sympathique ce qu'il doit faire.
Parce qu'on a deux mélomanes avec nous en studio, il faut le savoir, et des convertis, c'est-à-dire que vous êtes l'un et l'autre, pas monotâches, c'est le cas de le dire. Le foot est-il un truc de bourrin? Ça, c'est quand même une question récurrente aussi. On va y répondre avec François Bégoteau dans quelques instants, mais reste qu'aujourd'hui, des auteurs qui sont publiés par de très sérieuses maisons d'édition comme POL s'inspirent de ce sport pour en faire une expérience à la fois lyrique et littéraire. On pourrait dire la même chose du cinéma, on l'a évoqué tout à l'heure avec le théâtre et cette performance de Massimo Furlan. Côté maison d'édition, côté écriture, c'est le cas de la jeune romancière Elsa Boyer avec son Mister qui s'attache à la figure de l'entraîneur.
Mister a mis dans les buts ce garçon au corps tout en brisure et volte-face. Il le regarde retomber au sol après un arrêt, en appui sur ses mains et ses pieds comme une araignée. Le staff étire les membres du Gaul, le propulse dans les airs écartelés. Un projectile s'écrase sur un de ses bras, une jambe, une épaule. Le corps se recroqueville et touche le sol, se contracte, prêt à se jeter une nouvelle fois. Une force explosive comme celle-là dans le ventre, c'est une grande gueule noire qui arrache tout autour d'elle. Mister contemple son Gaul faire convulser son corps dans les airs sur commande. J'aurais pu écrire un livre sur le football amateur, c'est vrai que ça par exemple c'est pas du tout présent dans mon livre, mais c'est quelque chose qui existe et qui est tout aussi important. Après, c'est vrai que moi, je trouvais que ces corps qui sont vraiment là complètement contrôlés et complètement pris dans ces histoires d'argent, etc., c'était un ressort dramatique voilà, plus fort. Évidemment, il y a de l'argent, mais bon, ça, c'est... Pourquoi vouloir enlever l'argent du foot et pas ailleurs? Ce serait...
Et il y a cette figure de l'entraîneur qui est au centre de votre roman. On est en point de vue interne, en fait, avec cet entraîneur. Et ce choix n'est pas évident, puisque l'entraîneur, le coach, dans l'imaginaire commun, c'est le mec avec son jogging, qui pratique la langue de bois en interview, qui répète souvent la même chose quand on l'interroge sur son équipe, sur les progrès, sur les buts à atteindre. C'est l'anti-poète.
Alors, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ils ont des langues très particulières et que moi, je trouve fascinantes. Par exemple, je peux juste citer une phrase de Roger Lemaire quand il était assistant d'Aimé Jacquet et qui répondait à Lilian Thuram qui lui disait « Mais on est footballeur, on n'a pas besoin de penser. » Et Roger Lemaire s'était écrié « Si tu dois penser, si cerveau le veut, ça exécute » en frappant sur sa cuisse. Et après, il a répété « Si cerveau le veut ». Ça, c'est des phrases splendides. C'est comme quand Deschamps dit devant les journalistes après la victoire de la France face au Nigeria, la victoire est survenue tardive. Ils sont dans des telles conditions de pression, même par les questions des journalistes, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas tout dire, ils doivent dire des choses très contrôlées, que finalement, ce qui en sort, c'est un langage qui peut être déjà, peut-être pas poétique, mais qui en tout cas a en soi des germes.
D'où lui vient à lui le football, cette mauvaise réputation, ou à eux, aux footballeurs, d'être donc un peu des bourrins. Une parole de joueur formaté, contrôlé par le club, conditionné en amont par des conseillers en communication, prompt à fournir un kit de réponse toute faite. François Bégoteau, c'est aussi un constat que vous aviez fait il y a quelques années dans le magazine SoFoot. Alors au final, peut-être pas si con ces joueurs de football.
Je pense que ce que j'essayais de développer dans cet article, c'était l'intelligence du jeu lui-même. Il y a une grande intelligence du football tactique. Il suffit d'écouter des entraîneurs parler, c'est très intéressant. Les grands entraîneurs sont, je dirais pas des philosophes, peu importe, d'aller chercher cette légitimité-là, mais c'est hautement intellectuel comme domaine.
Cette langue qu'évoque Elsa Boyer, justement.
Tout à fait, oui. Et après, il y a l'intelligence même, l'intelligence intuitive du sportif et du footballeur, qui est l'intelligence du chat qui retombe sur ses quatre pattes, quoi. C'est l'intelligence de l'animal. Et c'est une intelligence compliquée, pas scolaire, pas universitaire, mais intéressante. Après, sur le côté bourrin, je pense que le discours sur le foot, un peu comme ça, anti-foot, il peut être tout à fait légitime. Je suis le premier à être très hostile à certains aspects du foot. Je pense qu'il s'inscrit aussi dans une générale haine du peuple. C'est le sport du prolétariat, quand même, le football. Donc le mépris pour le foot bourrin auquel on opposerait... Moi, je viens d'une famille qui était comme ça, par exemple. Chez moi, on adorait le rugby parce que c'était le sport noble avec des gens super qui avaient des vraies valeurs, et le foot, c'était le truc de bourrin. Parce que mes parents, issus du prolétariat, n'avaient de cesse que d'en sortir. Donc, ils prenaient comme repoussoir le foot, sport des pauvres. Donc, vraiment, moi, c'est à ce titre-là que je défendrais le foot toute ma vie. En revanche... Ce qu'il ne faut quand même pas négliger, et c'est là-dessus, moi, c'est vrai que je suis très proche de... Enfin, je m'associe beaucoup à l'entreprise Tatane. Et en même temps, je ne suis pas dupe. Je crois quand même qu'il faut accepter qu'il n'y a pas de moment pur du foot. C'est-à-dire qu'on pourrait dire il y aurait le beau jeu, et à un moment, il est corrompu par l'argent, comme le disait Charles. Et ça, c'est très vrai. Il y a à un moment un effet comme ça de corruption. Mais dès le début... Et c'est pour ça que moi, j'ai inscrit ma BD dans la matrice, dans un petit club avec des jeunes. Regarder des gamins jouer au foot dans une cour de récré, moi, je le faisais quand j'avais 5, 6, 7 ans. J'adorais ça, c'était toute ma vie. Mais déjà, le ver est dans le fruit. Le sport est constitutivement traversé par des affects troubles, des affects de compétition, des affects virils, des affects de « c'est qui aura la plus grosse ». Et ça, on n'arrivera jamais à nettoyer le sport de ça. Donc, il ne faut quand même pas s'imaginer qu'un jour, et je dirais tous les sports, le foot comme tous les autres, seront complètement purgés de leur soubassement un peu discutable. Mais voilà.
Peut-être aussi ça, justement, qui le rend intéressant, ce côté un peu sale, parfois, du foot, ce côté un peu sale qui peut le rendre intéressant à la fois pour des artistes, des écrivains, des cinéastes aujourd'hui.
Tout à fait, absolument. C'est qu'il... Je me méfie de ce genre d'analogie, mais je veux dire, il aurait la même fonction que la tragédie grecque ou la tragédie tout court, ou peut-être que l'art. C'est-à-dire qu'au moins, il fait droit à des affects qui, dans la vie, sont détestables, mais qui, sur un stade, c'est-à-dire que la morsure de soirée dont parlait notre artiste tout à l'heure, le performeur. Je veux dire, le type qui mord un autre, c'est pas bien, quoi. Bon, en plus, il a planté son équipe. C'est moralement totalement répréhensible. Et en même temps, qu'est-ce qu'on est content qu'il y ait quand même un lieu sur la Terre, régulé un peu par la Coupe du Monde, où il y ait un homme qui mord un autre. C'est-à-dire que là, il y a quand même un truc où peuvent s'exprimer des instincts qui, hors champ, seraient absolument redoutables. Je pense qu'il faut garder cet aspect-là du sport, effectivement, son côté pas moralement correct, quoi.
Et voilà, Charles Berberian, vous voulez, avec vos acolytes, en faire quelque chose de très politiquement correct, un football durable et joyeux. Et pour un manifeste a été signé, des règles ont été édictées par des cerveaux un peu trop sages. Alors peut-être on va finir par en arriver là.
Je sais pas, moi ce qui m'attire dans le jeu, c'est d'abord l'aspect ludique, n'est-ce pas? C'est la base même du jeu. Après, qu'il y ait une compétition, c'est vrai que ça m'a toujours ennuyé, la compétition. Mais pour revenir à ce que disait François tout à l'heure, il se trouve que mon aversion du sport ou du football n'est pas très justifiée. Enfin, en tout cas, mon argument de base, il est pas bon. Donc, je vais vous le dire. J'ai passé 5 ans de mon adolescence dans un collège jésuite qui n'était pas mixte. Enfin, on était que entre garçons. Donc, toutes les activités qui ne concernaient que les garçons et m'ennuyer prodigieusement. Et je suis allé vers la musique parce que c'est là que je voyais des filles s'intéresser aussi à... Vous pouvez me dire, si on a 3 heures d'émission devant nous, pourquoi tu t'es intéressé à la bande dessinée alors? Mais restons sur le sport. Donc, cette ambiance de vestiaire, c'est elle qui m'a dégagé du sport assez rapidement. Je préférais me faire porter pâle plutôt que de faire du sport.
Petite frappe signée François Bégodeau et publiée chez Delcourt. Tatane pour un football durable et joyeux, et notamment dessinée par Charles Berberian et publiée et vient de paraître chez Gallimard. tout de suite un acteur majeur de l'art contemporain. Une œuvre, un déclic, c'est à première vue et c'est signé Aude Lavigne. Olivier Quéplin est le directeur de la fondation MAG, homme de culture, de lettres et de radio. Il possède une vaste curiosité ouverte sur le monde artistique. À l'origine de nombreuses et de grandes expositions et manifestations telles que La Force de l'Art ou Monumenta au Grand Palais à Paris, il fut également le délégué aux arts plastiques au ministère de la Culture en 2004. En 2014, il est donc directeur de la fondation MAG et il répond à notre question : quelle œuvre est à l'origine de son goût, sa vocation, sa sensibilité pour l'art contemporain ? À première vue, Olivier Quéplin répond.
C'est extrêmement difficile, évidemment, de répondre à cette question, mais puisqu'il s'agit d'une réponse immédiate, je dirais que une œuvre que je n'ai jamais oubliée et qui n'est pas forcément à l'origine, mais qui est une œuvre qui compte depuis toujours pour moi, parce qu'en fait, ce qui est à l'origine de mon goût pour la beauté, c'est le football brésilien. Quand j'étais petit, j'allais à 4-5 ans avec mon frère voir des matchs de football au Brésil. Et c'est le vert extraordinaire du stade avec cette herbe et cette lumière. Puis après, évidemment, les dessins que font parfois les trajectoires de certains ballons qui brillent blancs. Ça, c'est l'origine de mon goût pour la beauté. Et si on revient maintenant à un tableau qui est extrêmement important pour moi. C'est un tableau de Gaspard David Friedrich qui s'appelle « Le naufrage de l'espérance », qui est un tableau qui se trouve à Hambourg et qui est un tableau qui, on va dire, représente, mais le mot n'est pas le mot qui convient, car il va bien au-delà d'une représentation, qui représente un bateau qui s'appelait « L'espérance » et qui a naufragé, pris dans les glaces. Et les formes du bateau et les formes des glaces qui l'enserrent créent un espace, qui un univers métaphysique. C'est pour ça que c'est bien plus qu'une représentation d'un naufrage comme il y en a eu souvent dans l'histoire de la peinture. Et d'ailleurs, l'ambiguïté ou l'ambivalence ou les doubles sens du mot disent évidemment beaucoup de choses. Le naufrage de l'espérance, ce tableau est dans les bleus, les blancs, toute une série de couleurs argentées, et il représente en fait, à travers le naufrage de ce bateau, le maintien de l'idée de l'espoir, de manière contradictoire. C'est-à-dire que la beauté est telle, les formes sont tellement puissantes et dynamiques dans leur diagonale, la sensibilité de la surface vibrante est telle que ce naufrage dit le contraire, c'est-à-dire qu'il appelle au mouvement et certainement au maintien de l'espérance.
Olivier Quéplin, dans À première vue, Olivier Quéplin, qui est le directeur artistique aussi de la Biennale de Busan en Corée du Sud, celle de 2014, Habiter le monde, qui se tiendra jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 22, à la Fondation MAG aussi, à noter l'exposition en cours Face à l'œuvre, qui se tiendra jusqu'au 11 novembre 2014. Toutes les références à retrouver sur le site de franceculture.fr à la rubrique À première vue, signée donc Aude Lavigne. Que le directeur de la fondation MAG, François Bégaudeau, déclare la pelouse des terrains de foot comme premier choc visuel, ça pourrait en surprendre peut-être plus d'un, mais pas vous ?
Non, parce que j'ai eu à peu près le même genre d'émotion esthétique devant la pelouse du stade Marcel Saupin, qui était légèrement fluorescentisée par les projecteurs. Ça fait partie des joies d'enfant. Non, mais il ne faut pas se représenter. C'est pour ça aussi que ceux qui, je pense, ont un regard un peu contempteur sur le football. Moi, je ne suis pas l'ambassadeur du football, hein, loin de là, comme on l'a compris, j'espère. Mais je crois qu'il faut un minimum essayer de comprendre de l'intérieur l'effet que ça fait. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut trouver le spectacle d'une bande de mecs qui regardent un match de foot et qui deviennent dingues quand il y a un pénalty qui est sifflé pour l'adversaire, ou qui deviennent dingues quand il y a un but en leur faveur, on peut trouver ce spectacle particulièrement lamentable.
Essayons au contraire de le prendre dans son, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant dans ce sport pour que ça nous mette dans cet état-là, quoi ? Ça serait bien d'essayer d'appréhender le phénomène sans jugement a priori, ni négatif ni positif. Et il y a quelque chose de très très puissant dans le football, vraiment. Je pense que d'ailleurs, pour y avoir réfléchi, par exemple, il y a une puissance dramaturgique du foot qui tient à la rareté du score. Si vous voulez, un but de foot étant rare, il provoque un orgasme, inversement proportionnel à sa rareté, vous voyez ce que je veux dire. Contrairement à un panier de basket, si vous voulez, un match de basket, il y a 50 paniers des deux côtés. Donc forcément, ça divise par autant l'intensité libidinale du déclenchement. Vous voyez ce que je
veux dire. Je vois tout à fait, parfaitement. Non, ça me fait le même effet quand je regarde un match de foot. Mais je voulais vous faire écouter le témoignage de Cornelius Porumbuyu. Alors, vous verrez, il n'est pas question d'orgasme, malheureusement, mais de joie d'enfant et de Madeleine de Proust. On était bien parti sur ce point-là avec vous. Match retour, c'est le titre de son film qui est en salle depuis mercredi dernier. Peut-être l'avez-vous vu, Charles Berberian, peut-être l'avez-vous vu, François Bégodeau. Le dispositif du film est assez simple et en même temps révolutionnaire. Porumbuyu diffuse un match qui opposait deux équipes de Bucarest, c'était cette fois en 88. Son père était l'arbitre de ce match et tout le long du film, on entend une discussion entre le fils et le père qui regarde le match comme spectateur et en même temps comme acteur et qu'il le commente. Ce film est-il une leçon de football ? Réponse.
Oui, en fait, quand j'étais enfant, on avait l'habitude à la maison de regarder les matchs arbitrés par mon père avec ma mère et mon petit frère. Et donc, on était entre nous en train de regarder, de commenter, de voir si papa avait pris les bonnes décisions en tant qu'arbitre. Et en même temps, j'ai grandi dans une petite ville, sachant que mon père était un arbitre très connu à l'époque. Et bien, du coup, même lorsque je jouais tout simplement au foot avec les autres enfants, peu importe l'équipe à laquelle j'appartenais, tout le monde, les joueurs des deux équipes, tous les enfants me demandaient à moi de donner mon avis. Est-ce que la décision qu'on avait prise dans l'arbitrage était bonne sur notre propre jeu ? Donc j'étais devenu malgré moi un expert en arbitrage.
Non,
je ne dirais pas qu'il s'agit là d'une leçon de football, mais en effet, peut-être que d'une certaine manière, à travers un tel film, c'est aussi une occasion de rappeler un peu quel est le rôle d'un arbitre. Vous voyez, c'est quelqu'un dont on a presque tout le temps l'impression qu'il existe à peine. Mais au fond, c'est quelqu'un qui joue vraiment un rôle très important dans l'économie d'un match.
Évident que tata le meu fin d'arbitre.
Bien sûr, ayant un père arbitre au fil des années, j'ai commencé à regarder non seulement les matchs et le jeu des équipes, mais aussi j'ai commencé à regarder ce que faisait l'arbitre. Avec le temps, j'ai fini par bien apprendre les règles. Et donc, après, au bout d'un moment, instinctivement, je regarde le match, les joueurs, mais aussi l'arbitre. Ce que j'ai découvert en faisant ce film, une chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé avant, c'était que quelque part, dans un match de football, l'arbitre crée ou à tout le moins joue un rôle dans la création du match, du fait de match. Et en fait, j'ai fini par y voir une analogie avec la profession de réalisateur.
Cornelius Porumbuyu pour son film Match Retour au micro d'Adrien Nazelli. Jusqu'à 14h, l'écrivain François Bégodeau et le dessinateur Charles Berberian sont sur France Culture, tandis que le dessinateur et réalisateur Pascal Rabaté est invité à venir s'installer autour de notre grande table d'été à l'occasion de la sortie de son film à lui, Du goudron et des plumes. Il sera en salle demain, mercredi. On remet le couvert, vous l'avez compris, dans quelques minutes, le temps de savourer un entremets musical concocté par Mathieu Conquet dans le cadre des session musicale du rendez-vous à 13h33 sur France Culture pour ce second live inédit de l'été. Le Brésil, toujours centre de la planète foot, avec Rivière Noire, un projet sinueux entre Brésil, France et Mali. À l'origine, le chanteur brésilien Orlando Moret, figure très populaire au Brésil, associé ici au guitariste Pascal Danaé. Avec eux, à la basse, Jean Lamoute. Ils étaient 7 musiciens au total dans les studios de France Culture pour cette version de... Alors, je vais essayer parce que c'est du brésilien, Bate Longue. En tout cas, c'est Rivière Noire et c'est tout de suite sur France Culture.
coração agora não quer mais, mais saber de ninguém. Eu só sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém. O meu coração agora não quer mais, mais saber de ninguém. Eu só sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém. Ele bate longe, longe, longe. Ele bate longe, longe. Quer mais, mais saber de ninguém. Eu só sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém. O meu coração agora não quer mais, mais saber. Só sei que ele já bateu demais, bateu demais por alguém. Ele bate longe, longe, longe. Eu só sei que ele bate longe.
De l'album Rivière Noire paru chez Atmosphérique. Le collectif de musiciens Rivière Noire sera le 12 juillet au Festival de la Côte d'Opale et le 9 août aux Nuits du Sud à Vence.
Votre fille aussi fait partie de la troupe ?
Ouais. La petite brune, là, celle-là.
Non, c'est la grande blonde juste à côté.
Comme vous le savez, Montauban participe au triathlon de l'été. Nous avons un rameur qui nous a fait faux bond, si je peux me permettre l'expression.
Pour une fois, on aurait pu faire quelque chose ensemble.
Et pourquoi t'as dit non ? Pourquoi t'as refusé ?
Faire guignol à la télé, j'ai pas besoin de ça pour être regardé de travers. Hein.
Tu me ramènes chez maman.
Tu déconnes.
J'avoue que je vous comprends pas non plus.
On est venu chercher l'arabe à la sortie du commissariat.
Arrête, dis plus rien. Marc m'a tout raconté, c'est dégueulasse ce que t'as fait. T'en as trompé combien comme ça ?
À toi, j'ai jamais menti.
T'as plus ta place dans l'équipe. Et s'il n'y a que des gens honnêtes et sportifs.
J'en ai marre de cette honte que tu fais tous les jours, j'en peux plus, va-t'en.
Mais laisse pas tomber.
T'as cassé, tu dois réparer.
Extrait du film de Pascal Rabaté en salle demain, du goudron et des plumes, parce que dans une vie, il y a ce qui vous plombe et ce qui vous allège. Le film de Rabaté est une comédie grinçante sur l'envie d'être comme les autres. En être n'est pourtant pas donné à tout le monde. Pascal Rabaté, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes venu de la bande dessinée sans en être finalement jamais parti. Pascal Rabaté, vous revenez pour l'été derrière la caméra avec ce film du goudron et des plumes, dont j'ai fait une interprétation totalement libre du titre, mais en réalité, ça nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus dur, du goudron et des plumes. C'est ça, une punition, un châtiment corporel,
l'humiliation publique, en fait, c'était
qui nous vient du Far West.
Voilà, donc vous voyez, je ne coupe pas le cordon avec la bande dessinée Lucky Luke, mais c'est vrai que c'était une façon de parler de façon légère avec un titre un peu coloré sur un problème de société, puisque le film parle plus de dépression sociétale que d'autres choses.
Et dans cette chronique dite provinciale, mais de nos jours, vous savez, il faut dire régionale, donc dans cette chronique régionale, il est aussi un peu question de Far West. On s'y juge, on s'y jauge, on s'y observe avec des personnages, somme toute, assez solitaires qui essayent de se rencontrer, se passent parfois, si ce n'est souvent, à côté. Et puis des temps forts collectifs qui permettent à chacun de retrouver une place dans cette société pas si facile.
Non, mais c'est un peu ça. C'est l'histoire de gens qui sont un peu sur les bords. C'est pour ça que le film se situe dans les zones périurbaines, enfin dans tout ce qui est zone artisanale. Moi, je trouve ça assez touchant. Il y a quelque chose qui me renvoie aussi à l'enfance. Mon père vendait des articles de pêche et du matériel agricole. Et c'est vrai que je connaissais plus la ville de Tours par les zones artisanales que le centre-ville. Donc, j'étais assez fasciné par les grands panneaux, ces zones un peu désertes. Cette France des ronds-points qui peut être ce qui est souvent ridicule, mais c'est un peu des verrues dans le paysage, mais en même temps il y a quelque chose d'un peu du Lego jeté un peu comme ça sur les routes qui me touche assez quand même.
Du goudron et des plumes, c'est l'histoire d'un commercial divorcé qui a trempé dans des petites combines pas très sympathiques, arnaquer des personnes vulnérables, des vieux, des personnes ne parlant pas français, et qui essaie de regagner le cœur de sa fille, parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac, et aussi l'estime de ses voisins en participant à un triathlon d'été. Sur sa route, il va croiser Christine, incarnée par Isabelle Carré, enceinte d'un homme qui n'en voulait pas. Ensemble, ils se cherchent quelque part une place, et ils se cherchent aussi une normalité, mais pas si facile à trouver. Pourquoi ?
C'est l'histoire de deux personnes qui boitent et qui vont essayer de boiter ensemble. Mais c'était de parler de gens qui sont un peu en mode survie. Je pense que c'est un thème qui est récurrent dans toutes les histoires, qu'elles soient en BD ou en bande dessinée ou au cinéma. Donc c'était vraiment comment avancer, comment essayer de retrouver du collectif dans un monde qui pousse à l'individualisme. C'est un peu ça. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis en marge de lui-même, de la société, par des choix pour avancer. Après, c'est aussi une victime. Mais c'est un peu ces rencontres de personnages qui décident d'avancer coûte que coûte, parce que s'ils s'arrêtent, ils tombent.
Et vous avez la réponse ?
Non, moi j'ai pas de réponse.
Vous posez des questions ?
Je me pose que des questions.
C'est vrai que tous vos personnages, c'est de manière récurrente dans vos films, comme vous venez d'évoquer, mais aussi dans vos bandes dessinées, sont généralement en panne d'intégration, pas simplement en panne de normalité ou en quête de survie. On le voit aussi dans votre dernière bande dessinée, Le Petit Rien tout neuf avec un ventre jaune. François Bégodeau, idem, votre petite frappe, elle est aussi en phase de désintégration active, hein, parce qu'il se sabote lui-même, on l'évoquait tout à l'heure, il est en guerre contre sa famille, en guerre contre l'école, en guerre contre l'autorité. Et finalement, là encore, c'est ces petits riens qui vont l'aider petit à petit à essayer de trouver son intégration à lui dans cette société où il a du mal à se faire une place.
Son intégration à lui serait une espèce d'oxymore, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis, si vous voulez, je suis un peu, comment dire, refaisons venir un foncier anarchisant. Je trouve pas forcément désirable que les gens s'intègrent, moi. Je trouve pas ça que ce soit un destin désirable pour un individu de s'intégrer, quoi. Ce qui me paraît désirable
de sociabiliser, non ?
Je pense qu'on retrouve
dans le projet Tatane, d'ailleurs, dans l'idée d'un football, d'un terrain de foot qui nous permettrait, à travers ces différentes règles, de refaire de cette pelouse un lieu de démocratie où chacun est citoyen, ouais. Se respecte, mais aussi se parle.
Non, mais moi j'ai des doutes là-dessus, je suis désolé. J'essayais de le dire tout à l'heure, je crois qu'on peut essayer de moraliser le football, c'est comme moraliser le capitalisme, si vous voulez.
On peut toujours essayer, quoi. Le capitalisme est fondamentalement amoral. Le sport est fondamentalement amoral.
Charles Berberian, il va falloir mettre François Bégodeau à un moment sur...
Que...
Non, mais
c'est
parce que Charles, le remettre sur un stade et lui trouver une règle.
Tu es un esprit pur. Mais... Oui, mais le sport sans compétition, c'est plus du sport. Vous voyez, c'est... En tout cas, il y a tout un pan du sport absolument décisif et qui fait beaucoup sa gloire.
Mais lisez Tatane, il peut y avoir de la compétition, mais de la compétition sympathique, joviale, durable et joyeuse. Regardez le Rabbi Jacob, regardez le l'Ovalie, regardez le Stromae, toutes ces règles, Eric Cantona, toutes ces règles qui sont décrites, décryptées, qui sont là pour vous aider à vous aussi, François Bégodeau, à remettre un petit peu d'entrain, de sympathie et de lien.
Mais moi, j'imaginais que peut-être les choses évolueraient peut-être dans le sens tatanien si le football se mettait à être mixte, c'est-à-dire que des équipes étaient mixtes et jouaient contre des équipes mixtes aussi. Mais je crois que François n'est pas très convaincu non plus par cette idée. Ma fille a 22 ans, elle fait de la boxe, elle fait du rugby, elle fait du football. C'était des activités qui n'étaient pas forcément recommandées aux filles avant, il y a longtemps. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes que ce que nous pouvions être à l'époque, quoi. Et j'imagine que dans le futur, tous ces sports-là vont changer, je crois.
Et on pourrait parler du sort de
ballon carré.
Oui. Pascal Rabaté, on pourrait parler aussi du sort de cette entraîneuse de football, Elena Costa, qui devait être la première entraîneur ou entraîneuse d'une équipe de foot masculine professionnelle, celle de Clermont, et qui a, après avoir retroussé ses manches, laissé tomber après 3 semaines. On a beaucoup reparlé depuis des propos assez sexistes qui avaient entouré toute sa nomination. Pas facile, évidemment, pour une femme de se faire une place dans un monde d'hommes, mais pas non plus pour un homme toujours de se faire une place dans une société tout court. C'est donc aussi l'objet du coup de tronc et des plumes, votre film, Pascal Rabaté. On le disait, vous êtes venu de la bande dessinée parce que vous n'êtes pas le seul auteur à avoir choisi d'adapter vos propres bandes dessinées au cinéma. Les critiques vous rapprochent souvent de Marjane Satrapi avec son Persepolis, de Johan Sfar avec Le Chat du Rabbin ou encore de la franco-ivoirienne Marguerite Aboué avec son héroïne Ayad Yopungo. À la différence de ces trois-là, vous n'avez pas choisi le film d'animation pour raconter les histoires qui vous tournent dans la tête. Vous avez choisi le cinéma en prise réelle.
Oui, parce que je préfère que les choses m'échappent que de tout contrôler. Et puis c'est surtout un film d'animation, c'est 5-6 ans. Je ne suis pas assez patient pour me cogner ça et superviser un peu les choses. Il faut que les choses viennent et puis qu'il y ait un peu de la vie. Donc un tournage de film, c'est 6 semaines, parce que bon, je suis une économie un peu réduite. Mais vous avez quelque chose qui se passe avec les acteurs, avec des décors. Je travaille qu'en décors naturels. Donc bon.
C'est 6 semaines, mais moi j'ai lu qu'il vous a fallu 6 ans avant d'accoucher concrètement de ce projet. 6 ans que vous avez commencé à écrire le scénario. Pourquoi ça a mis autant de temps ?
Non, c'est-à-dire que j'avais, parce qu'avant j'ai essayé de faire du cinéma en parallèle de la bande dessinée, mais comme en France les caissons sont assez étanches, mes projets restaient un peu dans mes cartons, et puis il a fallu que ça soit des producteurs qui viennent me chercher pour adapter un de mes albums. Et donc ce scénario existait, les petits ruisseaux ont mis un bout de temps avant de se concrétiser, enfin bon, il y a eu des problèmes de financement, et donc ça devait se tourner un été, et ça a été déplacé d'un an, et donc j'ai pris un personnage qui était le frère qui vend des farces à trappe et qui est dépressif, et du coup j'en ai fait un spin-off, j'ai fait toute une histoire en BD. Mais le scénario était en écriture, donc ça a pas mis 6 ans, parce que j'ai fait aussi le Ni avant ni alloué, qui était un film pas sketch, mais un film choral sans dialogue. Mais après, c'est vrai que c'est la genèse date de 6 ans, mais il y a eu d'autres choses faites entre.
Peu de dialogue aussi dans Les Petits Ruisseaux, et là un retour complet au dialogue avec du goudron et des plumes qui, tant qu'à faire, soyez messieurs des artistes complets, pourra peut-être bientôt être adapté sur scène, sur les planches. Vous voyez peut-être où je veux en venir, vers les festivals, parce que chaque jour jusqu'au 25 juillet, nous partons faire un tour à Avignon avec notre festivalière Averti, c'est Joël Gaillot, et tout de suite c'est son journal d'un festival. Joël Gaillot, bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous êtes avec nous en direct du site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon. Vous avez laissé hier midi sous le déluge après la pluie. Est-ce que la soirée s'est un peu éclaircie ? Est-ce que les spectacles à ciel ouvert ont repris ?
Hier soir, il y a eu des annulations, notamment le Mahabharata qui devait démarrer à la carrière Boulbon, laquelle carrière était totalement inaccessible parce qu'envahie par l'eau, donc le spectacle n'a pas eu lieu. Par contre, Coup Fatal, qui jouait aussi en extérieur dans Avignon, a pu se dérouler. Ça a démarré avec un petit peu de retard, ça a été interrompu, mais enfin, ça a joué. Et aujourd'hui, il fait relativement beau, donc j'espère que ces contrariétés météorologiques vont trouver leur terme.
Bon, ben c'est parti. Alors, chaque jour, coup de projecteur sur un spectacle in ou off. Aujourd'hui, vous nous donnez matière à danser.
Absolument. Le chorégraphe que nous retrouvons aujourd'hui, Olivia, s'appelle Thomas Lebrun. C'est un jeune homme timide mais déterminé qui refuse que sa danse soit enfermée dans un genre plutôt que dans un autre. Pourquoi choisir entre l'abstrait et le figuratif? Pourquoi trancher entre le moderne et l'ancien? Thomas Lebrun n'aime pas les cases trop bien rangées d'ailleurs. Il emploie souvent le mot liberté lorsqu'il parle de son art. Son spectacle Lit de ballet, présenté au cloître des Carmes, est un pur mouvement vers la grâce et la beauté, découpé en plusieurs séquences, rythmées par des lits de Berg et de Schoenberg, porté par la musique de Gustav Mahler, il s'achève sur une étourdissante partition de Giacinto Celsi. On n'est alors pas loin des rythmes de la techno et les sons qui montent en puissance percutent le corps des spectateurs. C'est à ce moment-là que les danseurs, jusque-là très disparates dans leur façon de se mouvoir sur le plateau, s'agrègent les uns aux autres pour se lancer d'un seul et même élan dans un ballet hypnotique. Ils vont traverser la scène de part en part pendant 30 minutes en accélérant la cadence de seconde en seconde. C'est une fascinante représentation. Démarrée sur un mode austère, elle ne cesse d'aller crescendo jusqu'à atteindre l'épuisement des interprètes. Vous avez jusqu'au 13 juillet pour découvrir Lit ballet au cloître des Carmes. Il y aura des danseurs, un piano à queue, un chanteur de la musique et en coulisses, un chorégraphe, Thomas Lebrun.
Pour moi, la danse, ça doit être libre. Mmh. Alors, libre, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que je ne fais pas forcément une danse libre parce que j'ai une danse assez très écrite, mais je trouve ma liberté dans l'écriture chorégraphique, on va dire. Et libre, ça peut être aussi une danse improvisée, ça peut être une danse changeante dans les temps, ça peut être une danse qui est écrite mais qu'on va déformer un peu par rapport au moment où on la vit. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire que même s'il y a une écriture, il y a une liberté aussi pour l'interprète, majoritairement, de trouver sa liberté dans la contrainte, finalement.
Thomas Lebrun, j'aimerais que vous nous le commentiez, je vous lis. Hein. Mmh. Un danseur qui refuse l'état de danse ou qui se contraint volontairement par branchitude au point de plonger dans un nouvel académisme de la pensée ne m'intéresse pas. Je trouve même cela un peu triste. Je cherche des danseurs qui expriment un plaisir, un engagement personnel, qui défendent leur métier et qui sont prêts à défendre une pièce en groupe et pas simplement l'intégrité de leur engagement individuel.
La danse doit être première. C'est-à-dire qu'elle doit être avant la pensée aussi. C'est que parfois l'intellect ou la pensée ou la réflexion prend le dessus sur le primitif, sur l'instinctif, sur le fondement, finalement. Parce qu'elle englobe quelque chose, parfois elle enferme quelque chose. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui parfois peut me mettre en colère aussi, intérieurement. Voilà. Ben, il y a trois actes très différents. Donc, on est parti sur sur une structure de ballet et aussi en traversant plusieurs possibilités, c'est-à-dire l'idée de la pantomime, l'idée d'une danse expressive et narrative ou l'idée d'une danse abstraite. Donc il y a vraiment ces trois actes qui sont dans la pièce, qui se regroupent évidemment, hein, enfin, déjà par les leads eux-mêmes, même si au niveau musical, le premier acte n'est pas du tout sur les leads, le dernier non plus. L'acte avec les leads est le deuxième, mais on retrouve les leads soit par le sens des textes, soit par quelques bribes d'accords orchestrés qui sont pris dans la dernière création musicale, alors qu'à l'intérieur du deuxième acte, on n'est que sur du piano-voix. Donc il y a vraiment une traversée, pour le spectateur aussi je suppose, mais c'est une traversée dans des époques et dans des états très différents, c'est-à-dire que c'est trois propositions vraiment très distinctes. Au niveau visuel, au niveau de ce qu'on peut ressentir dans la danse, mais qui sont intimement liés par la construction de la pièce elle-même et de comment on l'a construite.
La danse vous a servi à dire de vous des choses sur le plateau? Thomas Lebrun ? à évacuer aussi.
Je crois qu'à chaque fois que je fais une pièce ou à chaque fois que je danse, pour moi ou pour d'autres, je dis quelque chose sur le plateau que je ne dirais pas forcément oralement. Mais en même temps, je commence à savoir un peu mieux m'exprimer oralement avec le temps, parce que c'était aussi pour moi un problème à une certaine époque, c'est-à-dire que...
Prendre la parole était compliqué.
Ouais. Encore aujourd'hui, parfois, c'est compliqué. D'être dans l'action, de faire des actes artistiques, d'être dans une même, parfois, un peu revendicateur ou un peu militant, c'est pas compliqué pour moi. Mais être dans une, comme là, entre nous, là, je suis en train de vous parler, pour moi, c'est plus compliqué que de, que d'écrire une pièce ou de travailler avec mes danseurs ou de me livrer à travers un acte artistique. Ouais.
En même temps, on donne des titres à ces pièces de danse.
Oui.
Thomas Lebrun. Itinéraire de danseur grassouillé. C'est une de vos chorégraphies.
Voilà. Ben, qui a pratiquement pas tourné d'ailleurs. Elle a fait un gros ramdam médiatique à l'époque parce que c'est sûrement le titre qui fait ça. Et le, voilà. C'est une pièce dont on me parle tout le temps parce qu'évidemment, quand on voit, elle, le titre revient.
Il y a encore des préjugés dans ce milieu ?
Oh là là. Il y en a toujours. Il y en a toujours eu. Je crois qu'il y en aura toujours. Oui. Mais pas forcément. Seulement par rapport à ça, par rapport au physique. On peut voir aussi dans la pièce qu'on présente aujourd'hui, il y a des danseurs avec une physicalité très différente. Même physiquement, sont très différents. Ça va de 1m60 à 2m, avec un danseur qui a une petite boule de muscle, un autre très longiligne. On lui demande souvent s'il a des os. C'est aussi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des danseurs qui portent et qui sont engagés, mais pas seulement... par rapport à eux, c'est qu'ils sont engagés sur, sur un partage et sur un croisement. Pour moi, à partir du moment où il y a ça, où il y a cette connexion, où on sent qu'il y a une chose qui se partage, pour moi, l'essentiel est là. Même si la danse n'est pas forcément très poussée vers le public, souvent on essaye de faire venir le public vers nous aussi, parce que j'aime bien cet échange-là, que ce ne soit pas forcément tout le temps exposé. C'est-à-dire on est sur le plateau et on donne, et c'est aussi on est sur le plateau et on attire, on convoque. On joue avec le temps, on joue avec les nerfs, on joue avec la compréhension.
Le Lied Ballet de Thomas Lebrun à voir, c'est tard le soir, à partir de 22h au Cloître des Carmes pour les festivaliers à Avignon. Le journal d'Avignon de Joël Gaillot a été réalisé par Laurence Millet et David Federman et Joël Gaillot était en direct de l'école des Ortolans. Messieurs, puisqu'avec nous sont Pascal Rabaté, François Bégodeau et Charles Berberian, j'aimerais quand même qu'on évoque, avant de se quitter ensemble, une pétition qui tourne en ce moment parce que de contestation il est aussi question dans les rangs de la bande dessinée, moins médiatisée peut-être que celle des intermittents. Ils sont un millier d'auteurs français dans des pointures du genre. Gottlieb, Enki Bilal, Jacques Tardy, Christophe Blain, Johannes Foar ou encore Riyad Satouf à avoir signé en ce début d'été une lettre ouverte à la ministre de la Culture. Et vous, Charles Berberian, Pascal Rabaté, objet de cette missive, alerter les pouvoirs publics de la dégradation des conditions de rémunération des auteurs et l'instauration aussi, qui est critiquée, d'une caisse unique dans le cadre de la réforme du régime social des auteurs. Pascal Rabaté, que se passe-t-il ?
Ce qui se passe, c'est qu'ils ont imposé une augmentation de 8% sans consulter du tout les gens concernés. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une paupérisation sur une partie...
8% de vos revenus.
De nos revenus, oui. Ça va paupériser les auteurs les plus fragiles. Il y a quand même une partie de la profession qui bosse qui ont un revenu entre 1 000 et 900 euros. Donc c'est quand même pas de la petite bière et c'est vrai que c'est quand même un peu étonnant qu'on nous balance cette mise à plat et ce truc-là sans qu'on ait, par un courrier, une simple missive et qu'on ait même pas le choix, quoi.
Charles Berberian, qu'est-ce qui est en jeu là pour la création ? Un certain nombre de dessinateurs ont déjà décidé de poser leur crayon.
Bah, c'est déjà effectivement assez compliqué de gagner sa vie en faisant des livres, mais le problème des auteurs de bande dessinée, c'est qu'on ne peut pas trop avoir d'activité annexe, parce que écrire et réaliser un livre de bande dessinée demande énormément d'énergie. Il faut au moins pouvoir y consacrer une pleine année pour le faire, donc gagner suffisamment pour ne faire que ça. Ce que je trouve un peu ironique, c'est qu'on a appris aussi, le SNAC a appris, donc le syndicat qui défend les droits des auteurs de bande dessinée et des auteurs-compositeurs en général aussi, hein, pas que les auteurs de bande dessinée, parce que tout le monde est concerné par ces 8% qui vont être ponctionnés, c'est qu'ils ont 15 ans de réserve devant eux. Donc pourquoi ça arrive maintenant, au moment où effectivement les conditions sont assez pénibles?
Les auteurs, en tout cas de bande dessinée, appellent aujourd'hui à une ouverture du dialogue, puisque ce dialogue n'a jamais commencé. Vous pouvez signer la pétition, allez donc voir le lien qui se trouve sur le site de la Grande Table d'été sur France Culture. Merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup messieurs. Je récapitule, Petite Frappe de François Bégodeau et Grégory Mardon vient de paraître chez Delcourt, Tatane pour un football durable et joyeux est publié chez Gallimard. Enfin, Du Goudron et des Plumes, le film de Pascal Rabaté, sort demain sur vos écrans. Toutes les infos à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez également réécouter, podcaster cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table d'été, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, à Daphné Abgral et Claire Poinsignon, attachée de production. Ont préparé cette émission Clémence Marie, Claudia Prolongeau et Adrien Nazelli. Très bel été et surtout très belle journée à vous.